Vous écoutez Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
Dans une semaine, vous découvrirez un tout nouvel épisode.
Pour vous faire patienter jusque-là, on vous propose d'en écouter un extrait.
Bonne écoute
et à la semaine prochaine.
Ce dont je me souviens d'avoir vécu comme situation difficile était dans les poteaux noirs. J'ai des souvenirs d'avoir suivi à la transaction Jacques Vabre que tu as fait avec Jérémy Bayou, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais, grâce à ton récit, j'avais le souvenir que les poteaux noirs étaient une zone où il y avait beaucoup de pétrole. Mais je pense que j'ai trop retenu la partie de la pétrole et pas assez la partie où il y a aussi des gros nuages noirs qui amènent beaucoup de pluie et beaucoup de tempêtes très concentrées et des vents assez violents qui tournent dans tous les sens. Bah, cette partie-là, j'étais pas tout à fait au courant avant de l'avoir vécu. Et dans une de ces grosses nuages noirs dans laquelle j'étais bloquée pendant 10 heures, j'ai perdu les outils que j'ai considérés qui étaient les plus importants pour la navigation du bateau en solitaire. C'était les pilotes automatiques d'Esper, les antennes VHF que je considérais qui étaient assez essentielles pour se communiquer avec d'autres bateaux en cas d'urgence, les feux de navigation, un instrument assez simple qui sert à être vu. Et j'étais assez stressée, assez fatiguée aussi. Et les bateaux étaient pleins d'eau, et je sors de ces gros nuages et je me retrouve dans une pétrole. Ouais, c'est là que je me rends compte que la tempête, c'est dur, c'est fatigant, mais il n'y a rien de pire qu'une pétrole, parce que au moins dans la tempête, les risques ils sont assez visibles. Quand on est dans une pétrole, les risques ils sont ultra invisibles. Vu que apparemment il n'y a pas de danger, on oublie de suivre les protocoles plus basiques de sécurité parce qu'on dit en fait ça va, je vois rien de dangereux autour de moi, et je commence à ne plus boire de l'eau, de ne pas bien manger, d'oublier de mettre mon gilet, et en perdant la discipline qui est quand même élémentaire pour qu'on puisse garder le moral. J'ai commencé à poser la question de qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'étais partie. J'étais à une distance égale du Cap-Vert et du Brésil. Il en manquait encore au moins une semaine de navigation pour arriver au Brésil. Il y a des messages par satellite qui arrivent sur mon dispositif de communication. Les messages étaient envoyés par ma maman qui disait que ma route était mauvaise, que je faisais n'importe quoi, qu'il fallait que je change complètement de direction, que j'avais fait une grave erreur de navigation en ayant pris cette route. Et je me dis, bon, je vais peut-être pas réussir au final, peut-être que je suis pas capable, je sais pas qu'est-ce que je fais là. Et c'est à ces moments-là que j'ai mis, que c'était évident pour moi que j'avais fait un pari au début et que je m'étais donné les droits, un droit qui était les droits de ne pas avoir l'option, la chance, la possibilité d'abandonner. Donc, j'ai réfléchi, bon, comment abandonner quand on est entouré d'eau et qu'il n'y a personne autour et qu'on n'a plus envie d'être là. Je me dis, bon, si je tape sur les boutons SOS qui envoient un signal satellite jusqu'aux États-Unis, il va prendre au moins 3 jours pour que quelqu'un me trouve ici. Donc, il va falloir que j'attende 3 jours et j'ai pas envie d'attendre 3 jours parce que 3 jours, ça me semble tellement long. J'essaye d'appeler quelqu'un par les VHF, bon, ça va pas marcher parce que j'ai plus d'antenne. Donc, comment abandonner quand on n'a plus envie d'être là? Bah, je peux peut-être sauter dans l'eau. Ça peut peut-être marcher. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que, en fait, j'avais perdu plein de références, plein de repères. Quand on voit personne pendant plusieurs jours, on perd l'effet miroir et se rendre compte par la réaction de l'autre, de nos propres ressentis. Donc, quand on voit quelque chose de trop beau, on dit « Waouh, c'est trop beau », mais il n'y a personne qui va entendre. Du coup, on se pose la question « Est-ce que c'est vraiment beau ou est-ce que ça ne l'est pas ?» Quand on est fatigué, on prend du temps à nous rendre compte de notre fatigue, puisqu'on ne va pas la fatigue ni le repos dans les regards de l'autre. Il n'y a personne qui va me dire « couvre-toi, bois de l'eau, mange bien ». On est tout le temps notre propre source de motivation, notre propre source d'affection. Et sans les miroirs, j'étais un peu perdue dans mes références. Et je me suis accrochée finalement à la discipline, au protocole habituel. J'ai regardé l'eau et je me dis « ok, si je saute dans l'eau, peut-être que je vais disparaître. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais mon bateau, les voiles sont bien réglées, donc il va continuer sa route et il va arriver quelque part. Un jour, je ne sais pas quand, mais il va arriver quelque part. Et quand il arrivera quelque part, Tamara, les vaisselles, c'est en sable. » Et ça, je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas supporter l'idée que après 7000 milles de navigation, Sardine, mon bateau, il arriverait enfin à sa destination au Brésil avec les vaisselles sales. Et je me dis, ok, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. J'ai rentré dans les bateaux, mon gilet, j'ai mes brosses les dents et je me lave les mains et je commence à faire la vaisselle. Et en faisant la vaisselle, je me dis, si je saute dans l'eau maintenant, dans 2 heures, ça va pas changer grand chose. Donc, tant qu'à dormir un peu avant, j'ai mes reposes et en effet, j'avais besoin de repos puisque ça faisait 40 heures, je ne dormais pas du tout. Donc, j'ai mes reposes et en me reposant un peu, avec les idées un peu plus claires, je me dis, mais c'est n'importe quoi, comment je peux avoir cette réflexion absolument idiot. Ici, dans les bateaux, c'est un peu galère, mais en mer, sans les bateaux, ça sera beaucoup plus dur. Donc, je suis restée dans les bateaux. Une semaine plus tard, j'étais arrivée à Recife, au Brésil. J'ai retrouvé ma maman, mon papa, mes copains, les followers, les gens qui ont suivi tous les voyages et qui n'ont jamais su que j'avais vécu cette crise. Et maintenant, avec du recul, ça paraît très éloigné, mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience et d'avoir pu m'en passer des difficultés qui m'ont été présentées, puisque je sais que avec la fatigue et avec la crise et les contextes imprévus, j'aurais plus d'outils pour gérer ça que ce que j'avais à l'époque.
Vous venez d'écouter un extrait de notre prochain épisode.
Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'intégralité de cet entretien.
Pensez à vous abonner pour ne pas le manquer.
À très bientôt.